OA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir, au sommaire de cette édition du 30 mars 2017. Michael Omona, dernier lieutenant du chef rebelle Joseph Kony, s'est rendu aux forces ougandaises. RDC, l'opposition appelle à une grève générale le 3 avril pour exiger l'application de l'accord du 31 décembre. Manifestation à Cotonou ce jeudi contre le projet de révision de la Constitution. Arrestation de l'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye dans le cadre du scandale pour corruption. Au Venezuela, la Cour suprême s'attribue les pouvoirs du Parlement, bastion de l'opposition. Et le Sénat américain lance une enquête sur l'ingérence présumée de la Russie dans les dernières élections. L'économie et les sports, ce sera juste après le journal. Une vingtaine de mouvements d'opposition et syndicats béninois ont organisé ce jeudi une marche à Cotonou pour exiger le retrait immédiat d'un projet de révision de la Constitution. Selon les organisateurs, ils étaient plus de 10 000. Nous n'avons aucune estimation des autorités. Le président Patrice Talon a décidé de faire approuver le texte par l'Assemblée nationale plutôt que d'organiser un référendum comme il l'avait promis l'an dernier. En République démocratique du Congo, l'opposition a appelé à une grève générale le 3 avril. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU a annoncé une réduction des effectifs de la MONUSCO. Claire Morin-Gibourg.
Réunis autour de Félix Tshisekedi, le rassemblement de l'opposition appelle à une journée ville morte le 3 avril pour exiger l'application de l'accord du 31 janvier. L'accord prévoit le maintien au pouvoir du président Kabila jusqu'à l'élection de son successeur avant la fin de l'année 2017 et la formation d'un gouvernement élargi dirigé par un membre du rassemblement. Trois mois après la signature de cet accord, les évêques catholiques qui assuraient la médiation ont constaté lundi l'impasse politique des discussions. À New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit voter demain la reconduction du mandat de la MONUSCO. Mais les effectifs de cette mission onusienne en RDC seront réduits de 7%.
Un lieutenant du rebelle Joseph Kony s'est rendu aux forces ougandaises déployées en Centrafrique. Washington va retirer ses soldats également déployés dans le pays pour traquer le chef de la LRA, Anastasie Tudiech.
Michael Omona est le dernier des lieutenants de Joseph Kony à se rendre. Enlevé en 1994, il avait gravi les échelons jusqu'à devenir le conseiller de ce dernier. Joseph Kony est recherché par la Cour pénale internationale. D'ailleurs, l'un de ses anciens commandants, Dominique Ongwen, qui s'était rendu, est actuellement jugé à La Haye. La plupart de ses lieutenants ont été neutralisés. Le général américain Thomas Waldhauser estime que Kony est maintenant insignifiant et en mode survie. Les quelques 200 soldats américains qui devaient le traquer vont être retirés. Par contre, l'armée ougandaise continuera la chasse au sanglant chef de la LRA, resté insaisissable depuis plusieurs années. Pour le porte-parole de l'armée ougandaise, tant que Joseph Kony sera vivant, il restera l'ennemi à abattre.
Le président Faustin Touadéra redoute que la Centrafrique ne disparaisse des préoccupations de la communauté internationale, a-t-il confié à l'occasion du premier anniversaire de son arrivée à la tête d'un pays ravagé par la pauvreté et les groupes armés. La République centrafricaine est orpheline de l'aide humanitaire, a estimé M. Touadéra, qui tente de gérer un pays de 4,5 millions d'habitants, dont près de la moitié dépend du soutien international et qui compte 900 000 déplacés internes ou réfugiés, selon le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Nous y reviendrons dans les dossiers d'actualité. L'état d'urgence a été prorogé de 4 mois en Éthiopie. Le Parlement a donné son feu vert à cette extension. La mesure a été décrétée en octobre dernier à la suite d'une vague de manifestations anti-gouvernementales. Jacques Aristide.
Le ministre de la Défense, chargé de superviser l'application de l'état d'urgence, a défendu la décision. Siraj Feghessa a expliqué aux députés que des éléments hostiles à la paix étaient toujours en fuite et méritaient tous d'être appréhendés avant que l'état d'urgence soit levé. Selon lui, la mesure a permis globalement de ramener la stabilité, même si certaines régions sont moins calmes. La colère provoquée l'an dernier par un plan de développement pour la capitale Addis-Abeba a déclenché des manifestations anti-gouvernementales dans tout le pays. Elles ont également porté sur les atteintes aux droits de l'homme, de même que la situation politique. Le gouvernement du Premier ministre Hailemariam Desalegn est montré du doigt, sévèrement réprimé par les autorités. Les protestations ont fait dans les 500 morts.
3 employés étrangers du secteur pétrolier enlevés au Soudan du Sud par des rebelles ont été libérés grâce à des négociations menées par le Soudan et l'Éthiopie, ont indiqué les services de renseignement soudanais. Les 3 employés, 2 Indiens et un Pakistanais, avaient été kidnappés les 8 et 19 mars dans l'état du Haut-Nil. Répondant à une demande des gouvernements indiens et pakistanais, les gouvernements soudanais et éthiopiens se sont coordonnés pour assurer la libération des 3 employés, ont précisé les services de renseignements soudanais dans un communiqué. Les 3 hommes ont été conduits à Khartoum dans un vol spécial depuis l'Éthiopie. Le président sud-africain Jacob Zuma souhaite bien procéder à un remaniement gouvernemental pour se débarrasser du ministre des Finances, Pravin Gordhan, a confirmé aujourd'hui un membre de la coalition au pouvoir. Depuis plusieurs mois, M. Zuma mis en cause dans des scandales de corruption et M. Gordhan s'oppose sur la gestion des deniers publics. Le chef de l'État a brusquement interrompu lundi une tournée de promotion de son ministre à l'étranger en lui ordonnant de rentrer immédiatement. Le président nous a informé de son intention de procéder à un remaniement ministériel pour remplacer le ministre et le vice-ministre des Finances, a déclaré un chef du parti communiste Solima Pella, ajoutant avoir fait part de leur objection.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après la Chambre des représentants, le Sénat américain lance sa propre enquête sur les tentatives présumées de la Russie d'influencer les élections de novembre dernier. Abdourahmane Dia.
Les audiences ont démarré ce jeudi et pourraient durer plusieurs semaines, voire des mois. Une vingtaine de témoins, dont Jared Kushner, gendre du président, devraient passer devant les membres de la commission du renseignement du Sénat américain. Le président de cette commission, le républicain Richard Burr, a promis une enquête impartiale alors que son homologue de la Chambre des représentants, Devin Nunes, est sous le feu des critiques après sa rencontre avec le président Donald Trump la semaine dernière. Ses collègues démocrates l'accusent de chercher à blanchir M. Trump. Le locataire de la Maison-Blanche a qualifié de canular ses allégations sur les prétendus liens de sa campagne à la Russie. De son côté, le président Vladimir Poutine a une nouvelle fois rejeté ces accusations. Le démocrate Mark Warner, vice-président de la commission du renseignement du Sénat, a mis en garde contre une politisation de l'enquête, prédisant un échec si les motivations partisanes l'emportaient sur la recherche de la vérité.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a affirmé que le sort du président Assad à long terme serait décidé par les Syriens dans la première prise de position publique à ce sujet de la nouvelle administration américaine. Il s'exprimait lors d'une visite en Turquie largement axée sur la Syrie au lendemain de l'annonce par Ankara de la fin de son opération militaire. De son côté, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a affirmé que Washington ne considère plus le départ du président syrien comme une priorité pour mettre fin au conflit dans le pays. Il faut changer nos priorités et notre priorité n'est plus de rester assis là, à nous concentrer sur la manière de faire partir Assad, a-t-elle déclaré à New York. Le président du Parlement vénézuélien, Julio Borges, a accusé le président Nicolas Maduro de coup d'État après la décision de la Cour suprême de s'octroyer le droit d'édicter des lois. Lors d'un nouveau coup de force du camp présidentiel, la Cour suprême s'est attribuée ce jeudi les pouvoirs du Parlement, bastion de l'opposition, 2 jours après leur avoir enlevé leur immunité. L'ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye a été arrêtée dans le cadre du scandale pour corruption ayant mené à sa destitution, a indiqué un porte-parole du tribunal chargé de statuer sur cette affaire. Après une audience marathon la veille, le tribunal central de Séoul a émis un mandat d'arrêt contre l'ex-présidente pour corruption et abus de pouvoir et pour avoir livré des secrets gouvernementaux. La coalition contre le groupe État islamique estime que moins d'un millier de djihadistes subsistent à Mossoul, en Irak, où ils cherchent à provoquer des bavures de la coalition, selon un porte-parole militaire américain. Les djihadistes étaient environ 2000 au démarrage de l'offensive sur Mossoul ouest mi-février. Mais nous pensons qu'ils sont moins de la moitié maintenant, a déclaré le colonel Joe Scrocra, un porte-parole de la coalition. Les forces irakiennes, qui comptent de leur côté environ 100 000 hommes, ont déjà conquis la partie est de la ville et progressent dans la vieille ville où des dizaines de milliers de civils sont pris au piège. L'OTAN a condamné la reconnaissance par Moscou des passeports émis par les républiques séparatistes de l'est de l'Ukraine, l'usage du rouble par ces derniers et la saisie d'entreprises par les rebelles. Lors d'une réunion avec leur homologue russe à Bruxelles, les ambassadeurs des pays de l'Alliance Atlantique ont exhorté la Russie à faire usage de son influence sur les rebelles pour qu'ils respectent pleinement leurs obligations découlant des accords de Minsk, a déclaré un indiqué le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Un réfugié syrien a été grièvement brûlé en tentant de s'immoler par le feu sur l'île grecque de Chios, où sont bloqués des milliers d'exilés en vertu du pacte migratoire Union européenne-Turquie, a indiqué l'agence ANA. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Morgane Guiriec.
Côte d'Ivoire, le chocolatier Mars et le gouvernement renforcent leur partenariat. L'objectif pour le premier producteur mondial de la fève de cacao est d'assurer la durabilité de sa filière. Cosmétiques, depuis l'Algérie, les laboratoires Vénus veulent accroître leurs exportations vers l'Afrique subsaharienne. C'est le marché le plus porteur où la culture de consommation ne cesse de grandir, estime le directeur général des laboratoires Vénus Sapeco, cité par l'AFP. Et puis évasion fiscale, la Tanzanie annonce un audit visant la compagnie Acacia Mining. Depuis une semaine, sur décision du gouvernement, les exportations de cuivre et d'or sont par ailleurs bloquées dans le pays, quatrième producteur aurifère dans le monde.
Et Nicolas Pinault est dans ce studio pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
L'Afrique aura 9 équipes à la Coupe du Monde 2026.
L'Europe devrait compter 16 équipes directement qualifiées à compter du Mondial 2026, qui passe, vous le savez, à 48 équipes. Eh bien l'Afrique devrait voir sa participation augmenter elle aussi de 5 à 9 équipes. Ce sont les recommandations adoptées par la FIFA aujourd'hui. L'extension de la Coupe du Monde à 48 équipes contre 32 aujourd'hui avait été adoptée le 10 janvier. Dernier par la FIFA, une proposition âprement défendue par le nouveau président Gianni Infantino. Eh bien, le bureau du conseil de la FIFA qui rassemble le président de la FIFA et les présidents de chacune des 6 confédérations s'est réuni aujourd'hui à Zurich et ce conseil s'est mis d'accord sur une proposition de répartition des places. L'Amérique du Sud, elle, passerait de 4,5 à 6 places.
Paul Tergat veut relancer le sport au Kenya.
Le double médaillé d'argent du 10 000 mètres a déclaré qu'il se lançait dans la course à la présidence du Comité national olympique kényan. La décision d'organiser de nouvelles élections à la direction de ce comité olympique fait suite aux scandales qui ont éclaboussé c'est l'instance lors des JO 2016 et à des demandes pressantes du Comité international olympique. Début mars, celui-ci avait gelé des aides financières au Kenya afin de presser le pays d'entamer une série de réformes.
Tennis, tournoi de Miami, Venus Williams en forme.
Oui, pour la 8e fois dans sa carrière, Venus Williams va participer aux demi-finales du tournoi de Miami. Après avoir dominé la numéro 1 mondiale, Angélique Kerber, hier, l'aînée des sœurs Williams a donné une leçon à Kerber qui a abdiqué après 1h39 de jeu sur le score de 7-5, 6-3 en demi-finale. Demain, Williams, qui est déjà assuré de revenir dans le top 10 mondial, affrontera la Britannique Joanna Konta.
NBA, championnat de basket nord-américain.
Une nouvelle prestation étourdissante et une qualification pour les playoffs. La soirée de Russell Westbrook à Orlando a été très rentable. Westbrook a marqué 57 des 114 points de son équipe, victorieuse face à Orlando en prolongation 114-106. Et puis le choc entre San Antonio et Golden State n'a pas déçu. Golden State a pris l'ascendant pour s'imposer 110-98.
Merci Nicolas.
Merci à Nicolas Pineau et John Lindon pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra fête aujourd'hui sa première année à la tête du pays. Un an au pouvoir dans un pays encore déchiré par des violences intercommunautaires. Comment les centrafricains apprécient-ils ces 12 premiers mois à la magistrature suprême? Voici un élément de réponse dans ce reportage signé Freeman Sipila.
Sorti vainqueur des élections de février 2016 avec 63% des voix, Faustin Archange Touadéra a hérité d'un pays fragilisé par 3 années de violences armées. Son choix à la tête du pays a redonné espoir aux centrafricains qui craignaient une partition. Les défis étaient immenses et les promesses aussi nombreuses. Un an aujourd'hui au pouvoir, les centrafricains apprécient diversement les actions de leurs nouveaux dirigeants.
Un an de Touadéra existe à Bangui, pas aux provinces. Je pense que la RCA contient 16 préfectures.
En toute chose, le début n'est pas facile. Ce n'est qu'un début. On peut toutefois apprécier. Et quitte à nous maintenant d'aider le président à relever les défis et remonter notre pays.
Nous, on s'attendait beaucoup à lui, quoi. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Et il doit faire plus pour que le pays puisse aller de l'avant.
12 mois sont-ils suffisants pour évaluer la gestion d'un chef de l'État et surtout dans un pays qui revient de loin? Pour Jean-Claude Mbatas, jeune cadre du KNK, parti de l'ancien président François Bozizé, des efforts ont été fournis, mais beaucoup reste aussi à faire.
C'est difficile parce que le chemin est encore long. Le président Touadéra a été élu pour un mandat de 5 ans et qu'à un an seulement, c'est difficile d'apprécier à sa juste valeur si le bilan est positif ou négatif. Ce qui voudrait dire tout simplement qu'au terme de la Constitution, les choses se mettent au fur et à mesure en place. Au niveau social, c'est pas encore ça parce qu'on se rend compte que le peuple continue de souffrir.
Plusieurs régions du pays sont encore sous contrôle des bandes armées. Les tueries se poursuivent en région. Situation humanitaire à la remonte avec l'enregistrement d'au moins 100 000 nouveaux déplacés depuis le début de l'année en cours. Malgré ce décor, le président Faustin Archange Touadéra dresse un bilan positif de sa première année à la magistrature suprême de l'État. Pour lui, la paix reste la priorité des priorités.
Je voudrais indiquer que tout au long de l'année, nous avons eu à faire des choix difficiles et prendre des initiatives audacieuses. Dans le domaine de la paix, la sécurité et la réconciliation nationale. Comme j'ai eu à le rappeler, en certaines circonstances, ma priorité reste la paix, la pacification du territoire national et la réconciliation nationale. C'est pourquoi je n'ai lésiné sur aucun moyen pour convaincre les responsables des groupes armés de l'impérieuse et l'urgente nécessité d'adhérer volontairement et consciencieusement au processus de paix, conditions sine qua non du relèvement de notre pays.
Le chemin est encore long et Faustin Archange Touadéra a encore 4 années pour convaincre les centrafricains, a martelé un collaborateur du président. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Le Parlement burundais a voté une loi portant sur la détaxation de produits en provenance de l'étranger pour pallier au déficit de la production nationale. Cette mesure n'aura qu'une durée de 3 mois à partir de la promulgation par le président Pierre Nkurunziza. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Le délai de 3 mois proposé est court, car notre intention est de limiter la période d'exonération à la période de déficit alimentaire uniquement. Si la situation persiste, une mesure de reconduction de la détaxation sera prise pour sauver la vie d'une grande partie de la population burundaise.
Cette loi sur la détaxation des produits alimentaires de base a été adoptée mercredi dans l'hémicycle de Kigobe à Bujumbura, comme l'indique Pierre-Célestin Douimana, vice-président de la Commission des Finances, à l'Assemblée nationale burundaise. Une journée après, beaucoup de Burundais n'étaient pas au courant de cette loi qui peut être promulguée à tout instant par le président burundais. Cette loi permettra de combler, selon les autorités, le déficit de la production nationale qui a été constaté ces derniers mois dans les rues de la capitale qui étaient sous la pluie ce jeudi matin. Cette femme est apparemment soulagée face à la détérioration de la situation alimentaire.
Le gouvernement a pris une décision louable. Nous vivons dans une situation catastrophique. Prendre une telle décision en ce moment, c'est vraiment une bonne chose. Nous espérons que les prix vont baisser.
Ce père de famille de 3 enfants habitant le quartier de Rohéroin au centre de Bujumbura affirme que cette mesure est la bienvenue.
C'est une bonne décision parce que les produits vont diminuer de prix. C'est-à-dire que la population va pouvoir faire les achats, s'approvisionner en vivres, alors qu'avant ce n'était pas possible. Mais il fallait que ce soit pour une durée indéterminée, pas pour une durée déterminée.
Ce jeune homme est étudiant d'une université privée. Il espère qu'il y a un espoir pour la population démunie.
Ça va faciliter l'échange des produits aussi, parce que les produits qui viennent à l'extérieur nous facilitent pour beaucoup de choses. Donc la décision du gouvernement vraiment sera fiable pour la population burundaise.
Tout près de la banque commerciale de Bujumbura, un commerçant s'étonne de cette loi qui renferme certaines zones d'ombre. Mais cette nouvelle loi sera promulguée après amendement de la loi qui instaure une redevance administrative payable à la douane pour toutes les marchandises importées ou réexportées, quelle que soit la provenance ou la destination. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Rabat, la capitale marocaine, se met aux couleurs de l'Afrique pendant un mois avec une série d'expositions, de projections et de concerts dans le sillage de l'offensive diplomatique du Maroc sur le continent. Salwa Jafari.
Au musée Mohamed V d'art moderne et contemporain, les artistes parmi les plus célébrés d'Afrique subsaharienne exposent jusqu'au 28 avril. Les tableaux bariolés de Chéri Chérin côtoient ceux de Chéri Samba, les œuvres fantasques du fondateur de l'école du Zaïre dans la peinture populaire, Pierre Baudot, et les canevas du Nigérian Bruce Onobrak Peya, qui ont fait le tour du monde, sont maintenant visibles à Rabat. Mehdi Koutbi, peintre et président de la Fondation nationale des musées du Maroc, supervise l'événement.
L'essentiel, c'est de voir que le Maroc aujourd'hui, Rabat, ville lumière, capitale de la culture, est en train d'être un rendez-vous incontournable de la culture. Et c'est ça qui est important. Et en même temps, un vrai pont entre l'Europe et l'Afrique.
Dans une autre salle du musée, un hommage est rendu à 3 photographes africains, le Malien Malik Sidi Bé, surnommé l'œil de Bamako. Les Marocains Atmen Dilami et Leila Alaoui ont également présenté d'imposants clichés du Tunisien Wahib Chehata, installé au Mali, ainsi que les œuvres de l'artiste hip-hop congolais Koukal Tadi. L'artiste malien Abdoulaye Konaté nous parle de l'importance de cette initiative.
Le fait que le Maroc s'intéresse globalement à toutes les manifestations culturelles au niveau de l'Afrique, il se trouve que cette année, le Maroc est revenu dans la communauté africaine sur le plan politique. Le Maroc était déjà là dans le domaine économique et culturel.
18 endroits de la capitale marocaine accueillent 36 activités et 32 pays africains, avec du théâtre, des conférences, des concerts, un match de gala entre une sélection africaine et européenne. Le thème de l'Afrique est devenu incontournable au Maroc, alors que le pays mène depuis des mois une vaste campagne diplomatique, politique et économique sur le continent, couronnée à la fin janvier par le retour du royaume au sein de l'Union africaine.
Le monde
manquez pas le nouveau rendez-vous de VOA Afrique, le monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU. Le monde au féminin est une émission interactive dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse. Le monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, tous les mardis et samedis, à partir de 19h TU sur VOA Afrique.
Une commission du renseignement du Sénat américain a commencé des audiences publiques sur l'ingérence présumée de la Russie dans les dernières élections et la possible collusion de Moscou avec l'entourage du président Donald Trump. Plus de précisions avec Solange Niamoulissa.
L'enquête ira jusqu'au bout, ont assuré le sénateur républicain Richard Burr, président de la commission du renseignement du Sénat, et le sénateur Mark Warner, principal membre démocrate de cette commission. Celle-ci passera en revue une multitude de documents et interrogera diverses personnalités, notamment Jared Kushner, proche conseiller et beau-fils du président Trump. Ni le président de la commission du renseignement du Sénat, ni les membres démocrates n'ont révélé une quelconque conclusion formulée à ces stades en dehors des desseins de la Russie. Le sénateur démocrate Mark Warner.
L'objectif de Poutine est d'affaiblir les États-Unis sur le plan économique et globalement. Ceci devrait préoccuper tous les Américains, quelle que soit leur affiliation politique.
La commission du renseignement de la Chambre des représentants avait pris l'initiative d'enquêter sur l'ingérence russe. Mais elle a annulé cette semaine les audiences publiques prévues à cet effet en pleine tempête politique autour de son président républicain Devin Nunes. Ces derniers avaient pris la décision controversée d'informer le président Trump au sujet des documents classés secrets qu'il n'avait pas encore partagés avec sa commission. Malgré les assurances d'impartialité du président de la commission du renseignement du Sénat, un nombre croissant de législateurs démocrates doutent que la vérité puisse être connue tant que l'enquête sera aux mains des commissions législatives contrôlées par les républicains. Un point de vue exprimé par le sénateur démocrate Martin Enrich.
Je pense que nous devons être ouverts à une commission indépendante, non partisane, pour mener une enquête sur ce qui s'est passé. On ne peut pas permettre à la pression politique ou aux distractions sans fondement de brouiller les faits.
La Maison-Blanche s'est plainte d'une campagne de dénigrement de l'équipe du président, mais a tout de même reconnu le besoin de faire progresser l'enquête. Sean Spicer, porte-parole de la Maison-Blanche.
Nous voulons que ceci prenne fin le plus tôt possible, tout comme certains d'entre vous, j'ose le croire. Mais nous reconnaissons qu'il y a un processus à suivre.
Les conclusions de l'enquête pourraient résonner bien au-delà de Washington. Selon le sénateur Richard Burr, la Russie est activement impliquée dans les futures élections en France.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons des conséquences de la malnutrition sur la santé.
Une personne sur trois souffre au moins d'une forme de malnutrition selon l'Organisation mondiale de la santé. Les femmes enceintes et les enfants sont les plus vulnérables.
Pour en parler, nous recevons comme invité le professeur Victoire Damien Agué. Elle est médecin nutritionniste, épidémiologiste, biostatisticien. Elle nous expliquera les différentes formes de malnutrition et les dangers pour l'organisme.
Nous écouterons également le témoignage de Mumuni Kinda, responsable des programmes de l'ONG Alima, une ONG qui lutte contre la malnutrition dans plusieurs pays africains. Il nous parlera de son expérience sur le terrain.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30 temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Michel Joseph. À la console, c'était Rachat Smith. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Plus de 3 millions de fans sur notre page Facebook. C'est impressionnant. Continuez comme ça. Et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.